janvier 2011. Il est 17h30 précise. Bienvenue à l'aérospatiale pour cette première émission de l'année. Première émission qui commence tout en douceur. Mon Dieu, j'ai oublié de me présenter. Julie Gagné, comme à l'habitude, accompagnée de Jacques Juniac à la mise en onde. Comme je le disais, une émission qui commence tout en douceur parce que je n'ai pas de chroniqueur cette semaine. On se reprendra la semaine prochaine pour discuter avec Christelle Géard aussi au cours du mois de février. Une nouvelle chroniqueuse fera partie de l'équipe. Elle s'appelle Anouk Desloges. C'est une artiste en art visuel. Elle pratique principalement la sculpture. Au menu aujourd'hui, on rencontre Émile Morin, directeur artistique du Mois Multidose, pour nous parler de toutes ces activités-là, les spectacles, les installations, le colloque, etc. On rencontre aussi Cook Sasville pour parler de leur toute nouvelle exposition « Le penseur en chocolat » qui est présentée au lieu jusqu'au 13 février. Et comme à l'habitude, Éric Dorion nous a fait un choix musical, mais il n'est pas là malheureusement pour nous le présenter, mais il m'a donné, comme il fait quand ça arrive, toutes les informations pour vous parler des artistes audio dont il sera question aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'album « Sobra la solace point d'exclamation » qui est un projet en fait qui est réalisé par Jérôme Joie avec Caroline Boissou, Dina Bird, Bjorn Eriksson, Jérôme Joie, Café Matthews et Gregory Whitehead. Tout d'abord, Jérôme Joie en fait qui est le réalisateur du projet. C'est un compositeur français qui a développé beaucoup de projets en réseau, donc des concerts de musique en réseau, des databases sonores participatives. Il a fait aussi des performances musicales qui vont mettre en jeu les dernières technologies, donc au niveau de la programmation, des systèmes en réseau, etc., dans des formes multiples entre la musique électronique, la radiophonie, le cinéma et l'improvisation. Il expérimente beaucoup ces dispositifs-là relativement à ce qu'ils vont révéler des pratiques musicales et des impacts possibles. Donc, des pratiques qui peuvent être des lieux, des inventions locales dans notre quotidien, dans l'environnement social, qui vont révéler les contextes et les questions alentour, plus que le statut même de l'œuvre. Donc, ce qui l'intéresse particulièrement, les approches essentielles de son travail, c'est vraiment les passages de l'œuvre au dispositif et du dispositif aux situations qui prédominent. Bon, Jérôme Jouy, en fait, a initié depuis le début des années 90 plusieurs projets sur Internet, donc Habitation, Collectif Jukebox, Radiomatique, et ses performances improvisées sur ordinateur vont produire beaucoup d'éléments d'immersion sonore et d'expérience d'écoute, des accidents soniques, des espaces ambiants, des samples noise et des micro-rythmes. Caroline Boissou, elle, est une artiste française qui est installée à Marseille. Elle travaille la vidéo, l'installation et des performances audio et est beaucoup impliquée dans différents projets collectifs. On peut penser à Laban Polspun, qui est un laboratoire en politique spontanée, et à Médite, qui travaille dans la marche et la démarche artistique. Dina Bird, quant à elle, elle habite à Paris et à Londres. Elle fait beaucoup d'émissions de radio, des publications audio, des installations, des trames sonores. Elle travaille pour le Museum of Modern Art pour développer des ateliers, en fait, d'art audio. Bjork Eriksson, lui, travaille la musique électronique et acoustique. Beaucoup d'enregistrements qui sont faits hors studio, donc des field recordings. Et au-delà de ça aussi, il plaît, oui. mes notes sont en anglais. Il fait de la musique électro-acoustique dans différents contextes. Travaille beaucoup avec les plateformes médias. Café Matthews, elle est connue surtout pour sa musique électro-acoustique depuis les années 90. Elle fait figure de leader, de pionnière dans le champ de l'improvisation électronique et la composition en direct. Elle a aussi créé le label Anetworks. Pour terminer, Gregory Whitehead, lui, c'est un écrivain, un réalisateur, un producteur qui a travaillé pour beaucoup de stations de radio ou de médias, notamment la BBC, Radio France, etc. Il travaille dans la musique d'improvisation et le théâtre expérimental. Donc tout ça, vous voyez, c'est vraiment des univers, ma foi, fort différents qui sont condensés dans Sobra la solace, qui est une sorte de radio-opéra qui est pensée comme une collection d'épisodes. C'est entre un concert musical, une œuvre radiophonée et un dispositif en réseau. C'est un album qui combine les sons montés, mixés, composés, improvisés. Et dans le fond, les participants de ce projet-là, de ce premier épisode-là, en fait, ont soit placé un micro ouvert dans leur quotidien afin de capter le quotidien, de l'enregistrer, soit enregistrer leur voix qui décrit des histoires probables de leur environnement. Par exemple, Gregory Whitehead à Seattle va discuter à distance sur les termes les plus utilisés dans les médias. Caroline, elle, va déployer ses rêves qui hallucinent aux impressions quotidiennes. Dinah Burke va raconter ses passés post-it qui sont issus d'observations furtives. Café Matthews, elle, va mettre en direct à partir de chez elle toutes les variations liées à la couleur jaune qui vont filtrer dans son environnement. Björk Eriksson a placé ses micros ouverts en direct sur Internet dans la cuisine de sa maison en Suède. Donc, vous voyez toutes sortes de mosaïques, finalement, comme je le disais, Radio Opéra, qui est pensée comme une collection d'épisodes. Donc, sur ce, on en écoute un extrait immédiatement et au retour, on discute avec Cook Sasseville.
To end is you, that it he was, for on our ass, with his bay eye at. Be this half from, or one had by word, not what all were we. When your can said, here, use and each, which she kills. How their if will of other, about out many, then them these. So some here would make like him, and in time,
aucune manière n'a pu peuple.
Two more right. Go see number.
Était à belle.
No way. Good beast of my then first. Water bin call.
L'homme
who oil.
Chené de trouver.
Agathe à Catherine Vittorie.
Avait obtenu.
Find long down day.
Pièce de mille.
Did get.
La nuit de bonnes scènes finies, seulement peu
trouvées. Over new sound, take only little work.
De phase, je donne.
No place, year live.
Le plus très
important, most
notre nom.
Very after thing, our just name.
Le bonhomme de phrase pense, disons grand.
Good sentence, man. Think, say great, where help through much before, line right, mean old any same,
sweet
old boy, follow,
hopefully I will find a cabbage,
show. Also, around form three, small set, put end, does another.
And maybe a few other things.
Well, large must big even such. Because turn here, why ask? Went men.
So,
read, need. Land, different home. Us move. Try kind hand. Picture again, change.
Mouvement.
Off play, spell air away.
Demain, c'est encore. Changement.
Animal House. Point, page,
terre
letter.
De charme loin.
Mother answer, found study.
De mère, de
still learn,
de
should America.
De
world.
L'étude, trouvée.
High every year.
Julio
Venezia.
Between own below coffee plant, last school, father, keep tree, never start,
Catoline,
city,
Toujours à l'aérospatiale, on vient d'entendre un extrait de l'épisode Sobralo Solas, une suggestion d'Éric Dorion, qui n'était pas là aujourd'hui pour nous en parler, mais qui quand même fait son travail à distance. Bon, vous savez, il y a toutes sortes d'expositions. À peu près tous les centres d'art ont ouvert leurs portes la semaine dernière. Vendredi dernier, il y avait énormément de vernissages, et notamment parmi ces expositions-là, une exposition qu'on attendait quand même avec impatience, celle de Cuxhavsvik, qui est présentée au lieu. L'exposition s'appelle « Le penseur en chocolat ». On les rencontre pour en discuter. Jean-François Cook, bonjour.
Bonjour.
Pierre Sasseville, bonjour.
Bonjour.
Prime, trois expositions en moins d'un an pour vous à Québec, ça roule?
Oui, quand même. On n'a pas à se plaindre.
Vous êtes dans un vent d'inspiration profondément?
Oui, disons qu'à deux cerveaux, les idées se bousculent.
J'imagine qu'il y en a un qui a une idée, l'autre embarque, puis là, ça va...
Oui, on fonctionne souvent comme ça. Un matin, Jean-François peut arriver avec une idée, puis on fonctionne beaucoup sur un échange jusqu'à ce qu'on arrive à une idée qui nous apparaît intéressante.
De toute façon, les idées, c'est pas vraiment le problème, c'est plutôt, comme là, on est très content d'avoir des endroits pour exposer, mais souvent, il y a plein d'idées de projets qu'on a, qu'on élague. Ben oui, parce que c'est quand même difficile de trouver des endroits pour exposer, trouver les... l'argent nécessaire pour produire les projets et compagnie. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets en banque, souvent, qui finissent par, au fil des mois ou des années, nous paraître moins intéressants, donc, ou plus vraiment à l'heure. Donc, on les élague.
Ouais, c'est ça. La machine à concept continue à se faire aller, mais c'est pas tout qui peut être réalisé. Si on y va plus précisément avec le penseur en chocolat, en fait, vous nous avez fait comme un gros penseur qui... probablement le penseur de Rodin, qui se fait bouffer carrément de l'intérieur par des rats. Il contemple, il réfléchit devant ce qui me semble être un musée, qui est plus petit que lui, les fenêtres orangées.
C'est ça.
Est-ce que c'est la suite du petit gâteau d'art? Est-ce que c'est comme une réflexion encore sur le marché de l'art, l'institution?
En quelque sorte, oui. Et même que... En discutant de ce projet-là, on a fait tout de suite un lien avec le petit gâteau d'or qu'on venait de réaliser il n'y a pas si longtemps. Et aussi, on est retourné dans le temps un peu plus profondément avec « Si j'avais su qu'on avait présenté à plein sud »
En 2008.
En 2008. Qui était une scène où on se représentait, nous, en parachutistes, pris dans les arbres ou quelque chose d'autre. Ou en tout cas, où nos pieds ne touchent pas le sol... et que nos caisses d'exposition sont arrivées dans la salle d'expo, mais sont pas déballées. Donc, on assiste à un constat d'échec, une espèce d'exposition où les artistes se sont pris au piège. Les caisses sont encore fermées, l'expo n'a pas lieu. En tout cas, ça traitait beaucoup de la condition de l'artiste. Donc, on a vu ça un peu comme une trilogie où George Lucas n'a qu'à bien se tenir.
Cuxhavsvik arrive en ville, justement.
La trilogie de Cuxhavsvik, oui.
Fait que, est-ce qu'on peut percevoir ce passeur-là peut-être comme une métaphore de l'artiste?
À la fois une métaphore de l'artiste, aussi un clin d'œil, évidemment, à l'histoire de l'art, puis au système d'acquisition d'œuvres d'art aussi, puis au système de valeurs plus général, aussi bien à la valeur de l'œuvre que la valeur du nom ou de la signature d'un artiste, en regard à ce que l'institution en général va s'accaparer versus ce qu'elle va délaisser. Donc c'est un peu un jeu sur le milieu de l'art en général, sans vraiment qu'on pose notre point ou c'est plutôt une ouverture sur des pistes de réflexion sur un système que vraiment une critique qui serait très pointue ou c'est ça.
Sur un système aussi où beaucoup de gens vont se déplacer quand il s'agit d'une œuvre aussi marquante que celle d'Auguste Rodin.
Comme ça avait été un gros blockbuster au
exactement,
Musée national des
Beaux-Arts. Puis c'est pour ça que nous, l'idée de base était de faire ce penseur-là en chocolat, un peu comme un objet souvenir ou quelque chose qui est une image qui est commercialisée d'une œuvre de grand maître. Donc il y avait ce jeu-là qui nous intéressait beaucoup, et c'est pour ça qu'on l'a mis en confrontation avec cette maquette-là qui représente l'idée du musée en général.
L'institution muséale.
Beaucoup de gens nous disent, on dirait le Musée national des Beaux-Arts du Québec sur les plaines d'Abraham. Oui, c'est clair qu'on s'est basé sur cette image-là, mais tout en se disant, ce musée-là est près de nous, ce musée-là, on se sent concerné par lui, mais ce qu'on voulait d'abord représenter, c'était l'idée du musée en général.
Ben ouais, puis de toute façon, l'architecture est quand même d'inspiration plus classique, donc un peu le même type d'architecture qu'on va retrouver un peu partout avec la, comme la naissance du musée au 19e siècle. D'ailleurs, on parle d'architecture classique. Moi, j'ai une question en fait parce que à la vie, quand vous aviez exposé à Regard à l'automne, la vie en rose, il y avait une flamme en rose qui était sur des rails. Et moi, sur les rails, bon, il y avait des moulures. J'avais un peu l'impression de motifs architecturaux classiques. Est-ce que c'était volontaire?
Ben oui, c'était volontaire dans le sens où, pour ce projet-là plus spécifiquement, on voulait vraiment illustrer le rail, mais en utilisant des objets qui n'ont rien à voir avec un rail, donc en évitant d'utiliser l'acier, le beam de bois qui est brut. Donc on voulait, puis on voulait ramener cette espèce d'idée du quotidien, donc vraiment amener des moulures de salon, un aspect plus justement la céramique qui référait un peu à la salle d'eau. Donc oui, il y avait ce jeu-là. Puis,
ça amenait aussi un côté précieux à cet élément-là, à l'eau. Donc puis, le flamant rose semblait assoiffé ou sur le point de mourir de soif. Donc il y avait un désir de rendre le truc plus précieux avec ces motifs-là.
OK, parce que je me disais aussi, bon, les référents à l'architecture classique, moi ça me faisait un peu penser à l'histoire de l'art, c'est certain, c'est mon domaine d'origine. Puis je me disais, est-ce que c'est pas un peu une manière peut-être de vous positionner aussi, tu sais, de réfléchir comme ça à l'histoire de l'art aujourd'hui vis-à-vis de l'histoire de l'art ou encore de l'art actuel?
Ben, d'une certaine façon, oui, mais en même temps, les projets, comment ils se bâtissent, souvent, c'est à partir d'images. Donc, nous, on est vraiment, on se considère comme des créateurs. Donc, on s'inspire de l'ensemble du bagage culturel qu'on a, mais on n'a pas des références aiguës en histoire de l'art non plus. Donc, c'est souvent plutôt instinctif, puis ça va amener des réflexions sur des thèmes. Ça va amener des réflexions aux critiques et aux historiens aussi qui vont dans certaines directions qui sont pas nécessairement au départ des intentions.
OK.
Puis aussi, c'est des choses qui nous tracassent. C'est pas étranger si on travaille... Si les dernières expositions, comme on le disait, avaient d'un côté, premièrement, la condition de l'artiste, deuxièmement, conservation d'œuvres d'art, diffusion, avec le petit gâteau d'or, c'était plus le côté, la valeur, le marché de l'art. Donc, c'est des choses que nous deux, on vit actuellement, c'est des discussions qu'on a, c'est des trucs qui nous préoccupent, donc c'est normal que de façon symbolique, ça se retrouve dans notre travail.
Puis en plus, bon, là, vous avez comme le penseur, premièrement, est-ce qu'il est vraiment en chocolat? Je me posais la question. Non, je ne l'ai pas permis.
Non, malheureusement, non. C'est bon, on a évité la matière chocolatée.
C'est bon, juste pour être certaine, au moins pour la conservation, c'est bon.
Ce qu'on disait l'autre fois, ce qui était drôle, c'est que le petit gâteau d'or, qui lui était en vrai or et orné de vraies pierres précieuses, les gens nous posaient la question, nous disaient ça se peut pas, c'est pas vrai, vous avez pas fait ça, et là c'est totalement le contraire, alors qu'on aurait pu le faire en chocolat, les gens nous posent la question à savoir si s'il est vraiment en chocolat.
S'il est vraiment. Mais moi, c'est ça la question que je me pose, en fait. C'est le chocolat, c'est quand même quelque chose qui est attrayant. Presque tout le monde aime le chocolat. Mais là, vous l'associez à quelque chose qui est vraiment dégoûtant, qui fait même peur. Hein, t'sais. Les rats qui sont associés, bon, à la saleté, à la peste, au sous-sol, si on veut. Qu'est-ce qui vous a amené à créer comme cette espèce de dichotomie attrait-dégoût?
Ben, c'est... Dans ce cas-ci, dans cette installation-là, c'est beaucoup plus, évident, ce lien-là. Mais c'est quelque chose avec quoi on travaille depuis longtemps. Nos installations fonctionnent souvent sur ce mode-là. C'est-à-dire que, en entrant dans la salle, souvent, le spectateur va être surpris. Puis il y a un effet qui est punch, qui est séduisant à première vue. Ensuite, plus on déambule dans l'espace, plus on se rend compte qu'il y a, une espèce de sous-texte qui, lui, est plutôt dérangeant. Ouais. Donc, c'est cette espèce de jeu-là où une chose et son contraire existent en même temps avec quoi on aime travailler, finalement.
Une anecdote avec ce phénomène-là qui est souvent présent dans nos expositions. À l'événement Orange à Saint-Hyacinthe, alors qu'on avait rempli une salle de pop-corn, on avait représenté une ferme à l'échelle humaine, mais parasitée par le pop-corn. Donc, tous les animaux,
les animaux
étaient recouverts de réels pop-corn et la salle était emplie de pop-corn. Et les spectateurs qui arrivaient le soir du vernissage, on observait un peu ce qui se passait. Puis il y a des gens qui rentraient et tout de suite, ils faisaient « Wow! » Puis ils mangeaient du pop-corn, ils prenaient. Alors qu'on d'habitude, on a le réflexe de ne pas toucher aux œuvres. Eux prenait du popcorn et le goûtait, il avait une espèce d'eucharistie avec le qu'on n'a pas eu avec le penseur en chocolat.
Donc vraiment, quand les gens rentraient, c'était l'effet surprise, puis ensuite, ben là, on se rendait compte, oui, mais attends, c'était une fermette idéale, parasitée par le
par maïs, la monoculture,
par la monoculture. Donc, il y avait toute cette espèce de renversement de la première impression. Et on aime jouer là-dessus.
C'est nous. Ça, hein, parce que dans tout ce que j'ai vu de vous, il y a toujours comme, justement, comme vous dites, la première impression, mais toute une série de couches aussi d'interprétation ou toute une série de voix d'interprétation. Est-ce que vous cherchez à ce que le spectateur se raconte une histoire aussi en regardant votre
souvent,
travail?
On parle souvent de pièges, souvent il va y avoir un trajet dans nos installations où on va obliger le spectateur à passer par ce trajet-là pour être confronté à des réalités. Donc, souvent, on a cette idée-là de piéger le public. Donc,
puis d'aller chercher aussi, d'essayer de s'adresser à un public suffisamment large pour que les gens qui ont même peu ou pas du tout de connaissances en art visuel ou en histoire de l'art puissent finir par tirer quelque chose pour son compte, si on veut, de nos installations. Donc, arriver justement à avoir des œuvres qui sont suffisamment ouvertes pour aller chercher les différentes couches de toujours en se disant que le spectateur qui vient voir une exposition, il se réfère à quoi au fond? Il se réfère un peu à ses connaissances aussi. Ouais. C'est à partir de ses connaissances puis de son bagage culturel qu'il va être capable de se créer une histoire en fonction de ce qu'il regarde puis de ce qui va l'interpeller. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on travaille.
Puis j'ai remarqué aussi une chose, en fait, je sais pas, peut-être c'était là avant, moi je le remarque dernièrement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la mise en scène de l'exposition, à regard, encore au lieu, même à la manif d'art, c'est des éclairages très tamisés, des pièces qui sont plongées carrément dans la noirceur, au lieu vous avez peinturé carrément le plancher, les plafonds, vous avez fermé les fenêtres, est-ce que vous cherchez à obliger peut-être une relation d'intimité entre le spectateur et l'œuvre ou à mettre l'accent sur un caractère plus dramatique, théâtral?
Disons qu'on a toujours eu cette attitude-là, mais depuis quelque temps, oui, il y a comme un désir de contrôler totalement le lieu, donc d'oublier d'essayer de contrer la lumière du jour, d'avoir un éclairage artificiel, de décider de la couleur du plancher, du plafond. Oui, il y a un côté, il y a un désir de mise en scène totale. Puis, je pense que dans plusieurs cas, c'est difficile d'y arriver. Je parle d'expos de groupe ou quand on côtoie d'autres œuvres dans un expo collectif. Donc, c'est plus difficile. Il y a des moyens d'y arriver, mais disons que dans le haut lieu, on avait possibilité de fermer les fenêtres et c'est une salle qu'on connaît beaucoup. Ça nous faisait qu'on est allé souvent. Donc, ça nous faisait plaisir d'arriver puis de la transformer à un point tel que les gens la reconnaissent peut-être pas ou se sentent complètement ailleurs en venant voir l'exposition.
Ça a fonctionné, effectivement.
On a toujours réfléchi aussi notre travail un peu de nature installative. Donc, même quand on présente des sculptures, souvent, on va avoir tendance à aller plus loin puis à occuper l'espace puis à le transformer. Puis dans le cas du lieu, comme aussi pour la manif d'art, c'était important pour nous d'intégrer tu parlais de relations de proximité ou d'intimité avec le public. Dans ce cas-ci, c'était important pour nous parce que, bon, oui, t'as le penseur qui est devant cette espèce de musée-là ou d'institution, mais en même temps, l'organisme ou le centre d'artistes participe aussi au discours, si on veut, et le public également. Donc, ça devient vraiment davantage installatif d'un projet de nature immersive que simplement venir regarder une sculpture puis être à l'extérieur d'eux.
Et aussi, on avait la chance, au lieu, les gens sont assez ouverts pour justement permettre qu'on peigne le plancher. C'est pas tous les centres qui acceptent ça, qu'on fasse un trou dans le plancher pour brancher nos trucs. Le lieu, là-dessus, sont...
Ils ont laissé Guillaume Labrie faire des trous dans des murs aussi, là, puis carrément défaire l'espace. Peut-être une petite question en terminant, parce que malheureusement, on a des contraintes de temps. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous?
On a des projets qu'on peut pas encore parler, malheureusement.
Donc, à venir dans les prochains mois.
Ça viendra bientôt, oui. Puis sinon, en ce moment, on travaille sur des projets d'art public, entre autres, des sculptures extérieures pour la ville de Thetford Mines et la ville de Montréal. Sinon, probablement une résidence en France à la fin de l'été. Et suivi d'une exposition, donc dans une petite ville qui s'appelle Marnay-sur-Seine. Et sinon, ben, une exposition à Armure qui devrait arriver à la fin 2011 ou au début 2012.
Armure qui est à Montréal, petite précision.
Oui, exact.
Ben, Jean-François Cook, Pierre Savicile, merci beaucoup.
C'est nous qui te remercions.
Puis, si vous voulez aller voir l'exposition, en fait, c'est pas très long, hein, vous y allez, là, vous passez sur la rue du Pont, puis au passage, c'est toujours plaisant. Donc, c'est l'exposition Le Penseur en chocolat qui est présentée au lieu jusqu'au 13 février. L'avantage du lieu, c'est que c'est ouvert à tous les jours de la semaine de 13h à 17h, donc même un lundi, vous pouvez y aller avec grand plaisir. De notre côté, on prend une petite pause audio, on écoute un deuxième extrait de Sobralo Solas sur les ondes de CKRL.
Il y a le feu. Le feu. Non, il y a le feu.
Such a thing as electric yellow.
Tu crois?
There of course is the Yellow River in China, and then there's the Yellow Sea. And sunflowers are yellow, and daffodils, and butter, and. Streaming into this room. Can you hear it?